France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
C'est la 27e édition de la Semaine du Cerveau, avec ses événements gratuits partout en France. On vous a donc concocté une semaine spéciale. Aujourd'hui, quelle était la neuroanatomie de nos ancêtres ? Dès la découverte des premiers fossiles au 19e siècle, on s'est penché sur la forme et la taille du crâne des anciens. On sait que pendant 7 millions d'années, le cerveau n'a cessé de grossir jusqu'à l'apparition d'Homo sapiens, il y a 300 000 ans. Mais comment comprendre l'évolution de cet organe qui, comme tout tissu mou, ne fossilise pas ? Pour cela, les paléoneurologues jouent un rôle d'ouvre-boîte crânienne. Ils tentent de comprendre quand et comment les spécificités cérébrales humaines sont apparues, et ils n'en sont qu'au début. Cerveau préhistorique, où faut-il donner de la tête ? Antoine Balzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue au CNRS et au MNHN, spécialiste du cerveau humain, responsable du projet Paléobrain, et vous venez de publier « Dans la tête de nos ancêtres » aux éditions Belin. Jean-Jacques Hublin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes titulaire de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France et l'auteur de « La tyrannie du cerveau », un nouveau récit de l'évolution humaine aux éditions Robert Laffont en 2024. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct ici dans nos studios à France Culture, et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France, et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources, c'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors, comment reconstituer les cerveaux des espèces fossiles ? Comment, à partir de ces caractéristiques anatomiques, peut-on extraire des informations sur des comportements ? Et quelles sont les forces et les faiblesses actuelles de la paléoneurologie ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, c'est une discipline, une science en évolution, comme en témoigne notre archive du jour. Nous sommes en 1976.
Il y a 40 000 ans que nous avons notre cerveau dans le développement où il se trouve pour l'instant encore. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec un cerveau d'homme de Cro-Magnon. Nous avons encore notre cerveau reptilien, en ce sens que les couches les plus élémentaires, les couches profondes du cerveau, répondent encore à des sollicitations qui n'ont pas un caractère intellectuel, si vous voulez. Nous sommes, je ne dirais pas, dépassés par notre culture. Mais les faits culturels ont évolué beaucoup plus vite que les faits physiologiques, et que l'évolution, le courant normal, la dérive normale des espèces. Alors il est arrivé à l'homme cette chose assez surprenante, c'est que son poids culturel est beaucoup plus considérable que son évolution biologique. Si on imagine toute la trajectoire des civilisations et des hommes, depuis le début, il y a 2 millions d'années, ou 2 millions et demi, ou 3 millions, on ne sait plus très bien au juste. Si on examine cette trajectoire pendant très longtemps, il y a une sorte d'équilibre entre le développement cérébral et le développement de l'outillage. Tandis que quand on arrive à l'Homo sapiens, il y a un divorce complet entre l'évolution cumulative des techniques et l'évolution physique du cerveau. Il a fallu 2 millions d'années pour arriver à acquérir un cerveau d'Homo sapiens, et il s'est écoulé très peu de temps, en réalité, à peine 40 ou 50 000 ans, depuis le moment où l'Homo sapiens a paru. Il a construit tout son dispositif, tout son château de cartes de civilisation.
Voilà, André Leroy-Gourand, diffusé sur France Culture en 1976. Donc voilà, dans cette archive, il y a du vrai, mais il y a aussi un peu de fantasme quand on parle de cerveau ancien. Jean-Jacques Hublin ?
Oui, alors il y a certaines choses qui sont dites là, qui sont un peu remises en cause aujourd'hui. Hein. En particulier, l'idée que, voilà, à un moment donné, l'évolution du cerveau se serait arrêtée, on aurait un Homo sapiens, et puis il est le même aujourd'hui qu'à 40 000 ans, et voire bien au-delà dans le passé. Alors ça, en fait, on sait aujourd'hui que l'évolution s'est jamais arrêtée à aucun moment, ni il y a 40 000 ans, ni il y a 100 000 ans, ni même plus récemment que ça. On pense que le cerveau humain a continué à évoluer dans les derniers milliers d'années. Par contre, je pense que là, peut-être où Leroy-Gourand met le doigt sur quelque chose d'important, c'est que la complexité des processus cognitifs qui sont en jeu dans la technologie, puis aussi surtout dans les rapports sociaux, hein, dans des sociétés de plus en plus complexes, c'est quelque chose qui influence directement le développement du cerveau et les capacités du cerveau. D'une certaine façon, on peut dire que les hommes fabriquent un peu le développement de leur propre cerveau et même l'évolution de leur cerveau sur la longue durée par des processus de sélection naturelle, des processus épigénétiques, d'autres processus. Mais c'est vrai qu'il y a cette interaction permanente entre, dans le fond, la façon dont notre cerveau est câblé et puis ce qu'on en fait.
Antoine Balzo, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
C'est aussi une vision d'une époque, dans un état des connaissances et dans une manière d'approcher cette grande question qui reste toujours aussi problématique. La difficulté, c'est que nous sommes nos propres sujets d'étude. On se demande depuis longtemps qu'est-ce qui fait l'humain, en quoi notre cerveau serait particulier, et à la fois, nous sommes les seuls à faire ça, c'est indiscutable. Mais le raisonnement circulaire peut nous amener à des exagérations ou des interprétations qui ne sont pas forcément justes. Un facteur aussi qui joue dans l'amélioration de tout ça, c'est qu'on a tellement progressé dans le domaine des neurosciences en général qu'on comprend de mieux en mieux le fonctionnement du cerveau. Et plus on le comprend, plus on se rend compte qu'on n'en sait finalement pas grand-chose et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce qui fait que ça nous éloigne un petit peu aussi de cette perspective assez simple de relier juste cette croissance de la taille avec l'augmentation des comportements d'une manière un petit peu finaliste. Dans l'absolu, c'est pas faux. Il y a eu une progression de la taille du cerveau et des changements chez les humains, mais c'est évidemment bien plus complexe qu'une simple ligne droite et une corrélation basique entre les deux tout au cours de l'histoire de l'humanité. Maintenant, c'est ce qu'il faut essayer d'explorer avec les outils dont on dispose.
Et on verra évidemment en deuxième partie d'émission comment justement les succès, les outils en neurosciences servent la recherche en paléanthropologie. Mais pour continuer justement à explorer cette histoire de comment les scientifiques s'attellent à étudier ce tissu mou qu'est donc le cerveau, la première chose qu'on a finalement, c'est un crâne. C'est ce qu'il y a de plus simple à mesurer. C'est finalement le volume d'un cerveau grâce à son crâne, Antoine Balzo.
Oui, parce que le tissu mou qu'est le cerveau ne se conserve pas. On n'a pas de cerveau humain bien préservé qu'on puisse étudier depuis des milliers d'années ou des centaines de milliers d'années. Donc on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et le seul reflet, c'est l'intérieur de la boîte crânienne. Parce qu'à l'intérieur de la boîte crânienne, il y a des marques, des empreintes qui sont liées au cerveau, qu'on va utiliser pour essayer de comprendre, analyser la forme du cerveau. Et pour faire ça, on va pouvoir soit mouler l'intérieur des spécimens, soit utiliser l'imagerie pour faire des images 3D et avoir un reflet comme ça virtuel de ce qui est caché à l'intérieur. Et puis l'étape suivante, ce sera essayer d'interpréter et de comprendre ces petites marques et de voir en quoi c'est relié au cerveau.
Oui, cette forme de chou-fleur du cerveau laisse cette empreinte dans cette boîte crânienne. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endocrâne, Jean-Jacques Hublin.
Oui, alors on s'est intéressé dès le début de la paléanthropologie, on s'est intéressé à la boîte, hein, pour essayer de comprendre ce qu'il y avait eu à l'intérieur. Donc, dès le 19e siècle, il y a des discussions pour savoir à partir de quelle taille un cerveau est humain, à partir de quelle taille il peut produire des choses très, très complexes. Alors, effectivement, la boîte, évidemment, ça paraît un peu réducteur, mais comme Antoine vient de le dire, on a des structures qui laissent, alors de façon plus ou moins voilée, leur empreinte à l'intérieur de la boîte. Hein, donc ça, on peut l'analyser. Et puis, il y a autre chose à propos de la boîte, c'est que on peut aussi regarder ces changements de taille et de forme au cours de la croissance des individus. Et en fait, dans la maturation du cerveau, dans le développement de ses capacités, la croissance, le développement, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va lentement? Qu'est-ce qui se passe à différentes phases de la croissance? Donc tout ça, c'est quand même des choses auxquelles on a accès. Évidemment, ça serait mieux d'avoir un cerveau fossile. Et puis, alors, dernier point, et ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais depuis peu, il y a aussi les apports de la paléogénétique. Donc on a des génomes d'hommes fossiles. Et on connaît quand même un petit peu la mécanique génomique du développement du cerveau. Et donc, on peut comparer des génomes d'hommes de Néandertal ou d'autres hommes fossiles avec des génomes d'hommes actuels et voir en particulier en ce qui concerne le cerveau, qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Pour revenir en tout cas à ces boîtes crâniennes, Antoine Balzo, comment ont évolué les crânes de nos ancêtres depuis 7 millions d'années? Depuis Toumaï, hein, le plus ancien bipède connu et le plus ancien représentant connu de l'humanité, à quoi ressemblait le crâne de Toumaï?
C'est une vaste question, s'il faut parler toute l'évolution du crâne et de tous ces humains. En fait, Toumaï, c'est un fossile qui est important et intéressant pour l'histoire de la discipline et la compréhension aussi de l'apport de la forme du cerveau pour comprendre l'évolution humaine. C'est que justement ce spécimen, le débat est de savoir jusqu'à quel point il fait partie du groupe humain ou pas. Alors, la difficulté du mot humain, c'est qu'on peut avoir plein de définitions différentes. On peut parler de nous, on peut parler des humains qu'on supposait intelligents. Ça devient compliqué à définir. Et dans humain aussi, d'un point de vue paléontologique, on réunit les primates qui ont une adaptation à une locomotion bipède. Et Toumaï, justement, la base de son crâne, la forme de son cerveau, est très intéressante parce qu'elle ressemble beaucoup plus à la nôtre qu'elle ne ressemble à celle des chimpanzés ou gorilles ou autres primates qui sont quadrupèdes avec la colonne vertébrale qui arrive à l'arrière du crâne. Donc ça, c'est un fait marquant de cet individu-là. Malgré son tout petit cerveau, équivalent à celui d'un chimpanzé d'aujourd'hui, il a une structure de base du crâne et du cerveau qui semble indiquer assez nettement que le corps de cet individu était adapté à la bipédie.
Je lisais en préparant cette émission justement qu'il avait un endocrâne d'environ 370 cm mètres cubes. Ça ensuite, par la suite, on voit dans l'histoire et dans les fossiles que ça ne cesse d'augmenter, Jean-Jacques Hublin.
Oui, alors ça augmente assez peu au début. C'est-à-dire qu'on parle d'une histoire de la lignée des hominines, pour pas parler d'hommes. Donc la lignée qui mène aux humains actuels à partir du moment où elle s'est séparée de la lignée qui mène aux chimpanzés. On met toutes ces espèces dans un même paquet. Disons entre 7 et 4 millions d'années. La taille du cerveau varie assez peu, en fait. On est dans des tailles de cerveau comparables à celles de grands singes actuels. Alors, entre, 4 millions d'années et 2 millions d'années, là, on a affaire à des australopithèques, Lucie. Et là, on voit déjà, en tout cas chez les formes les plus récentes, une augmentation de l'ordre de 20%, 30% par rapport à ce qu'il y avait avant, de la taille. Mais c'est vrai que ce qu'on perçoit en tout cas de l'organisation du cortex cérébral, c'est encore très primitif et ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez les grands singes. En fait, le vrai décollage de la taille du cerveau, et pas que de la taille, de toutes sortes de réorganisations, ça va être pendant, disons, les derniers 2 millions d'années, où on a affaire à des représentants du genre Homo.
Comme Homo erectus, par exemple.
Voilà, comme Homo erectus. Et là, pendant 2 millions d'années, on va passer de tailles du cerveau qui sont de l'ordre de 500-600 millilitres jusqu'à des tailles qui font 1,5 litre, voire 2 litres chez les formes avec les plus gros cerveaux. Donc c'est là que ça se joue. Et évidemment, ça pose beaucoup de questions, en particulier sur le plan du budget énergie, parce que le cerveau, c'est un organe qui coûte cher.
Alors, quand vous dites que c'est un organe qui coûte cher, en effet, un gros cerveau, c'est un véritable défi énergétique et aussi un défi obstétrical. Un cerveau, ça coûte cher, grosso modo, pour l'humanité, Jean-Jacques Hublin.
Ah oui, absolument. Un cerveau, les tissus du cerveau consomment à peu près 10 fois plus d'énergie par unité de poids que le reste des tissus du corps. Et donc, voilà, un organe qui fait 2% de la masse corporelle, qui consomme 20% de toute l'énergie qu'on dépense juste pour se maintenir en vie. Et donc, c'est vrai que, d'un côté, au cours de l'évolution humaine récente et dans plusieurs espèces, il y a une pression, si je peux dire, vers des cerveaux de plus en plus performants. Ça passe pas que par la taille, mais ça passe aussi par la taille. Et en même temps, il y a en face de ça des contraintes, qui sont des contraintes obstétricales, comme vous l'avez dit, mais aussi des contraintes de fourniture en énergie, en glucose du cerveau pour qu'il se maintienne. C'est un organe qui est fragile, qui demande une température très maintenue, très constante, et qui ne souffrent pas de rester sans, comment dire, sans énergie très longtemps.
Alors ce gros cerveau qu'on voit apparaître à peu près, on voit cette rupture à partir d'Homo erectus, Antoine Balzo, par la suite, on voit Homo sapiens qui a un cerveau plus petit que Néandertal, et puis bon, par la suite on verra que son volume a ensuite baissé, mais justement quelle est cette différence entre ce cerveau Homo sapiens et ce cerveau avec nos cousins néandertaliens?
Il y a des différences de forme assez évidentes, mais il y a un autre aspect aussi, il faut envisager que les variations entre espèces se sortent un petit peu de cette idée d'augmentation. C'est plus compliqué que ça. Il y a des espèces différentes et des variations dans les espèces différentes. Erectus, qui a vécu pendant très longtemps, presque 2 millions d'années, en fonction de ce qu'on met dedans ou pas, on constate globalement une augmentation de la boîte crânienne au cours de son histoire. Il y a aussi une augmentation de la taille du corps, donc ça joue en partie avec cet aspect-là. Pour les autres espèces humaines ultérieures, ça devient plus complexe, parce qu'on a en effet des formes humaines qui vont avoir une boîte crânienne qui va réellement augmenter en taille. Les néandertaliens sont les plus gros, a priori, partant d'un cerveau un peu plus petit. Il y a des formes miniatures qui vont apparaître aussi avec des toutes petites têtes, ce qui est quand même très surprenant dans cette histoire évolutive et dans cette image qu'on avait très linéaire.
Comme l'homme de Flores, par exemple.
Oui, par exemple. Tout petit cerveau qui rappelle un peu celui d'Homo erectus, donc sur une base d'un cerveau plus gros qui est redevenu plus petit pour s'adapter probablement au milieu. Mais c'est assez contraire à l'idée qu'on avait auparavant de cette croissance régulière et attendue avec ce cas particulier. Et puis entre espèces, il y a ces variations-là. Et puis c'est vrai qu'on a Sapiens avec une belle boîte crânienne aussi, mais il y a des fossiles asiatiques un peu étranges qu'on ne sait pas encore bien classer, qui ont des volumes cérébraux encore plus gros. Donc c'est assez mystérieux tout ça, ce panel d'espèces humaines, de groupes avec des plus ou moins grosses têtes.
Voilà, la taille du cerveau ne peut pas être le seul critère qui permet d'expliquer toutes les avancées de l'humanité. Mais qu'en est-il de la forme du cerveau? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
À l'occasion de la 27e édition de la Semaine du Cerveau, on vous a préparé une semaine spéciale et on ouvre la boîte crânienne des hommes préhistoriques avec Antoine Balzo et Jean-Jacques Hublin en direct sur France Culture. On vient de voir que depuis au moins 3 millions d'années, les ancêtres de l'homme ont développé des cerveaux de plus en plus volumineux, ont décuplé leurs capacités cognitives. On a évoqué ensemble, Jean-Jacques Hublin, on met donc au monde des enfants avec un cerveau relativement immature, ce n'est qu'à l'âge de 20 ans environ qu'un cerveau humain achève son très long processus de maturation. Ça, c'est une question qui intéresse beaucoup les paléanthropologues, celle du développement du cerveau, la vitesse à laquelle le crâne grandit, que le cerveau s'adapte.
C'est-à-dire que le fait d'avoir un gros cerveau qui coûte cher, il coûte cher aussi pendant le développement, eh bien, ça aboutit. Alors, c'est pas un choix que les hommes ont fait, c'est la sélection naturelle qui a poussé l'évolution dans ce sens-là. Dans le fond, ça a poussé à étaler dans le temps le développement du cerveau. Alors en termes de volume, disons, il continue à grandir jusque vers les 5-6 ans à peu près, mais c'est vrai qu'il va continuer ensuite à être remanié en termes de câblage. Donc en gros, c'est un petit peu comme de payer une maison ou un appartement à tempérament, Donc si on paye sur 10 ans ou si on paye sur 30 ans, c'est pas pareil. Donc en payant sur 30 ans, on peut avoir une maison plus grande, qui coûte plus cher, mais évidemment, il va falloir payer longtemps. Et donc, c'est un peu ce qui se passe dans différentes espèces d'hominines récentes, c'est-à-dire que, dans le fond, ces sociétés humaines, elles, si je peux dire, à cause justement de leur développement cognitif, la complexité de leur comportement, de leur capacité à extraire de l'énergie de l'environnement, elles peuvent s'offrir, si je peux dire, des bouches inutiles qui vont être très longtemps dépendantes des adultes. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une espèce de cercle vertueux, si je peux dire. C'est-à-dire, plus on a des capacités cognitives élevées, plus on peut s'offrir ce développement un petit peu baroque. Mais ce développement un peu baroque, lui-même, il contribue au développement des capacités cognitives.
Antoine Balzo. Ah pardon, je croyais que vous...
Non, j'écoutais avec plaisir.
D'accord,
non, pas du tout.
Je croyais que vous écoutiez en me faisant signe pour intervenir. Mais alors, sur ce que vous dites, Jean-Jacques Hublin, et je rebondis également sur ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les progrès en paléogénomique, depuis les années 2010, on commence donc à avoir des génomes d'hominides fossiles, surtout de néandertaliens et de denisoviens, et on compare justement ces génomes avec les hommes et les femmes actuels.
Oui, absolument. Alors, bon, c'est une recherche qui commence, en fait. Il fait seulement peu de temps qu'il y a vraiment des travaux, des publications spécifiquement sur ce sujet-là. On sait que le génome d'un homme actuel et le génome d'un homme de Néandertal, par exemple, diffèrent. Alors, c'est une différence, c'est à peu près une lettre toutes les 250 lettres hein, dans le codage, c'est pas énorme, mais il y a cette différence. Et alors, on a repéré une série de gènes, donc des gènes qui codent des protéines dans notre génome, pour lesquels, dans les populations actuelles, il n'y a pas de polymorphisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de polymorphisme? Ça veut dire que tout le monde a la même variété de ces gènes-là. Et pourquoi tout le monde a la même variété de ces gènes-là? Ben, parce qu'ils doivent être drôlement importants. Et donc, la sélection naturelle n'a pas laissé survivre, si je peux dire, d'autres variants, comme c'est le cas pour la plupart des autres gènes. Et il se trouve que ces variants que tout le monde a aujourd'hui, il n'existe pas chez Néandertal et il n'existe pas chez Denisovien. Alors évidemment, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a avec ces sacrés variants qui est si spécial. Alors il y en a une poignée, quelques-uns, qui sont liés au développement cérébral. Ce qu'on est en train de faire depuis pas très longtemps, 3-4 ans, c'est de prendre ces variants humains, enfin quand je dis humains, je parle d'hommes actuels, et puis les variants différents qu'on trouve chez Néandertal ou Denisova, soit on les implante dans des souris transgéniques, soit on fabrique ce qu'on appelle des organoïdes, c'est-à-dire des sortes de mini-cerveaux, hein, des cultures de tissus dans lesquels on a implanté ces gènes-là, et on regarde ce qui se passe. Et donc on a déjà vu pour au moins 2 ou 3 de ces variants que ça pouvait jouer sur, par exemple, le nombre de progéniteurs des neurones, c'est-à-dire finalement le nombre de neurones qu'on va avoir à la fin. Il y en a un autre qui joue sur le contrôle qualité des divisions cellulaires, par exemple, des choses comme ça. Donc ça, c'est une voie de recherche qui commence à se développer, mais qui évidemment est ouverte à toutes sortes de débats, parce que les gènes, le génome, c'est pas quelque chose qui fonctionne dans des boîtes à l'intérieur dans un laboratoire. Le génome, il agit en interaction avec le milieu, il interagit aussi avec lui-même, c'est-à-dire d'autres parties du génome. Et c'est généralement le bémol, la critique qu'on fait à ce genre de travaux. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que, encore une fois, il se passe quelque chose dans notre espèce, qui s'est pas passé dans les autres espèces. Hein. On voit aussi, par exemple, que le génome de Néandertal, qui est présent, alors, dans une toute petite proportion dans notre génome, eh bien, il y a des parties du corps dans lesquelles il s'exprime, plus ou moins. Le cerveau, c'est plutôt un organe dans lequel il s'exprime peu par rapport à ce qu'on trouve ailleurs.
Par rapport à ces voies de recherche qui continuent de se développer, là on évoque la paléogénomique, il y a aussi donc ces endocrânes à la rescousse qui fournissent des infos que sur la surface externe du cerveau, mais ce sont les seuls témoins directs de la manière dont les cerveaux ont évolué. Antoine Balzo, comment déjà on reconstitue ces endocrânes-là?
Ça, c'est pas l'étape la plus compliquée. Il suffit de mouler l'intérieur du spécimen. Donc, on peut le faire physiquement assez facilement ou par des méthodes d'imagerie maintenant à très haute résolution. Donc, on peut avoir assez aisément ce modèle interne. La difficulté après, c'est d'arriver à voir jusqu'à quel point cela reflète réellement la forme du cerveau. Et jusque-là, on a une approche déductive à partir de cerveaux qu'on imaginait projeter sur ces endocrânes et on essayait de lire directement l'information. Ce qui fait que, bah, évidemment, globalement, ça a la même forme, les mêmes dimensions, la même orientation, on peut trouver l'avant, l'arrière, c'est pas le plus compliqué. Par contre, positionner précisément les sillons, les séparations entre les différentes zones du cerveau, c'était pas si simple et on a voulu justement, là, lors de notre projet, à la fois le tester et puis essayer de l'améliorer. Alors le test, ça a été d'envoyer un endocrâne pour lequel on avait aussi le vrai cerveau associé à 14 personnes qui travaillent sur la forme de l'endocrâne en leur disant « marque ce que tu marques d'habitude ». Et on comparera après. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est plusieurs à avoir participé, moi aussi. On est 14 à avoir joué le jeu. Et on s'est rendu compte qu'on avait un taux de lecture qui était assez étonnant. Globalement, on marquait des vraies dépressions et des choses en partie liées au cerveau. Mais pas que. Il y avait un certain nombre d'erreurs. Et puis surtout, pour des aspects vraiment importants, l'aire de Broca, une zone qui est impliquée dans le langage, le sillon central, qui est la séparation entre les lobes frontaux et les lobes pariétaux, presque tous, on ne le positionnait pas au bon endroit. Ce qui fait que ça faisait un moment qu'on lisait les endocrânes en ayant des données pas parfaites, pas suffisamment précises pour pouvoir lire clairement ce qu'il y a sur l'endocrâne. Donc on est allé plus loin ensuite en exploitant le même genre de données sur 75 individus, ce qui nous permet d'avoir maintenant une cartographie plus précise du lien entre le vrai cerveau qui est en dessous, l'endocrâne, pour pouvoir appliquer ça aux fossiles et quand on essaye de les lire, probablement moins se tromper qu'on pouvait le faire auparavant.
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'os crânien, il n'est pas posé sur le cerveau. Donc le cerveau, il est enrobé dans un certain nombre d'enveloppes et il flotte dans un liquide qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Et donc tout ça, ça veut dire que dans le fond, des structures qui peuvent être relativement précisément, j'allais dire ciselées à la surface du cerveau lui-même, vont laisser une sorte d'ombre, si je peux dire, sur l'os qui peut être assez difficile à lire. Et c'est ce qu'Antoine vient d'expliquer. Et donc au cours de l'histoire de la paléanthropologie, il y a eu des tas de débats comme ça sur... Enfin, je pense à, en particulier une structure qu'on trouve sur le lobe occipital qu'on appelle le sulcus lunatus qui a donné lieu à des véritables empoignades entre chercheurs. Bon, pour finalement se rendre compte que les uns ne plaçaient pas du tout là où il fallait la limite du lobe occipital. Voilà, c'est pas évident, j'allais dire. Juste avec ses yeux et son expérience, de reconstituer tout ça. Et donc, ce qui est très important dans ce que fait Antoine et son équipe, c'est justement de mettre au point des techniques beaucoup plus rationnelles, si je peux dire. Peut-être que l'intelligence artificielle va venir à notre secours.
Mais pour venir à notre secours, en tout cas pour bien comprendre, parce que là, on a Néandertal, Denisova, Homo sapiens, qui étaient donc toutes trois des espèces à gros cerveau, pour bien comprendre comment a-t-on distingué, justement, on a dit, voilà, Homo sapiens, le cerveau, il est gros, mais il se transforme. Comment s'est-il transformé, justement, enfin, considérait-on jusqu'à présent, par rapport à ces autres espèces cousines, Jean-Jacques Hublin?
C'est-à-dire que, justement, avec des techniques qui sont des techniques d'imagerie, des techniques de morphométrie, en gros de l'informatique et des maths appliquées à l'analyse des formes, on s'est rendu compte, en fait, que le cerveau de Néandertal ou le cerveau des Denisoviens, c'était un cerveau qui pouvait être assez gros en taille, même parfois plus gros que ce qu'on trouve chez des individus actuels, mais que dans le fond, pas uniquement, mais essentiellement, dans le fond, c'était la prolongation d'une trajectoire qui était déjà en place depuis très longtemps. Donc l'organisation générale changeait peu, il y avait une augmentation de taille avec des changements de forme qui étaient liés à cette augmentation de taille. Alors ce qu'on voit dans notre espèce, c'est qu'en fait depuis 300 000 ans, c'est l'âge des plus anciens sapiens, la taille du cerveau n'a pas changé énormément, elle a changé un petit peu mais pas énormément. Les plus anciens sapiens qui ont été découverts au Maroc à Djebel Erhoud, ils ont des tailles de cerveau 1450 cm3,
c'est à peu près la moyenne.
C'est probablement la taille de votre cerveau. Ça n'a pas changé énormément. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que, et ça, c'est probablement le signe d'une réorganisation d'une autre forme de connectivité. On voit que certaines parties ont changé. Par exemple, le cervelet, qui est une partie de l'encéphale qui se trouve à l'arrière du crâne, on voit qu'il y a certaines parties du cervelet qui, dans notre espèce, semble avoir augmenté. Évidemment, c'est assez tentant d'essayer de relier ça à des capacités particulières.
Ce cervelet, ce petit cerveau à l'arrière du gros, Antoine Balzo, quel est votre regard justement sur ces interprétations, sur ces différences de zones modifiées dans le cerveau de Sapiens ?
Qu'en effet, il faut faire attention aux interprétations, qu'il faut continuer les travaux, mieux analyser. C'est vrai que quand on prend l'ensemble de cette forme, on voit bien que la disposition, la structure générale est différente. Là, les premiers résultats que l'on a grâce à nos interprétations un peu plus précises de la position des sillons nous montrent qu'il y a quand même des différences de structure qui était pas encore documenté parce qu'on n'avait pas le moyen de le faire et qu'on voit qu'il y a des proportions un peu différentes, que Néandertal a des lobes frontaux qui sont assez développés, étendus vers l'arrière, des lobes occipitaux aussi plutôt étendus, une structure générale qui est un peu différente et qui finalement s'éloigne de celle d'Homo erectus, mais dans la question de plus de proportion des différents lobes que de la forme générale du cerveau. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'aller plus loin dans notre appréciation de la structure pour arriver à mieux apprécier les différences de forme. Et puis là, typiquement, si on se met face à un cerveau néandertalien et un cerveau d'Homo sapiens, ce qui n'est pas évident puisqu'on ne les a pas, mais qu'on compare ces différences de structure, il faut rester prudent dans les interprétations, la taille étant la même, les proportions étant pas les mêmes. Et donc, il y a des zones plus grandes chez l'un, plus grandes chez l'autre. Aller trop vite et dire telle zone est plus grande, donc c'est une supériorité, mais le risque, c'est que justement, il y a d'autres zones qui sont plus grandes chez l'autre et on pourrait prêter certaines qualités aussi. Là aussi, on rejoint le point de départ qu'on avait tout à l'heure. C'est vrai qu'Homo sapiens travaille sur lui-même, travaille sur les humains du passé, et donc s'est posé cette question de ce qui nous a amené là pour des espèces fossiles contemporaines, récentes, qui avaient des comportements tous les deux assez complexes, il faut faire attention aux comparaisons de taille et de l'interpréter trop rapidement comme des différences d'intelligence.
Enfin, l'idée générale, quand même, c'est que, dans le fond, avec Sapiens, on a arrêté un peu la course à la taille. Et donc, probablement, on a toujours une augmentation des capacités cognitives, parce que la pression de sélection, elle s'exerce dans ce sens-là. La complexité de nos comportements, dans le fond, demande cette augmentation des capacités cognitives. Mais peut-être que la vraie supériorité, si je peux dire, de Sapiens, c'est d'avoir réussi. Alors encore une fois, c'est pas dû à ses talents, hein, c'est lié au processus de l'évolution, à continuer dans la voie de cette augmentation des performances, si je peux dire, mais sans augmentation de taille et donc sans augmentation du coût énergétique de ce cerveau.
Ces cerveaux anciens, comment situer leurs grandes parties comme les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, occipitaux ? Comment le projet Paléobrain corrige notre vision du cerveau de l'homme de Néandertal ? Comment interpréter avec justesse ces endocrânes ? Restez à l'écoute.
Rush asleep in a black tower on the sand. In the foam of dead jellyfish and crushed beer cans. Sucking flies in your mouth and breathe them out just to suck them back in again. I look at the stubble on the sunburned scalp. Think about how it scratches on my neck and lips. Oh,
Bambara en direct sur France Culture. Nous parlons de crâne, de boîte crânienne et plus exactement de cerveau de nos ancêtres, en compagnie d'Antoine Balzo, paléanthropologue au CNRS et au MNHN, spécialiste du cerveau humain et responsable du projet Paléobrain, et Jean-Jacques Hublin, titulaire de la chaire de paléanthropologie au Collège de France. On vient de voir comment les endocrânes sont de formidables sources d'informations pour tenter de nous raconter l'histoire évolutive de notre cerveau. Mais comment les analyse-t-on en laboratoire ? C'est ce qu'on vous raconte dans notre reportage du jour et c'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous avez rencontré Amélie Baudet, chercheuse CNRS et paléanthropologue au laboratoire Paléovioprime de Poitiers. Elle cherche à identifier les changements majeurs intervenus dans le cerveau de nos ancêtres.
Et c'est un travail de fourmi, tant il faut prendre de précautions quand on veut lire les formes de l'endocrâne pour savoir ce qu'elles nous disent du cerveau passé. Un travail interdisciplinaire aussi. Amélie Baudet s'est notamment beaucoup inspirée des méthodes statistiques utilisées en neurosciences pour mener ses études. Mais avant même de vouloir lire cette histoire racontée par les parois internes des fossiles de crâne de nos ancêtres, le premier défi, c'est de parvenir à extraire cet endocrâne et le modéliser. Il arrive dans de rares cas que le calcaire ait peu à peu moulé l'intérieur du crâne et que l'on retrouve ainsi les formes de l'endocrâne en négatif sur un fossile. C'est notamment le cas des restes de l'enfant de Tang, dont on vient de fêter les 100 ans de la découverte. Mais la plupart du temps, ne reste que quelques ossements, quelques pièces d'un puzzle qu'il faut parvenir à assembler.
Pour essayer de reconstituer donc cet endocrâne, on va pouvoir soit directement mouler l'intérieur du crâne avec l'inconvénient qui est que forcément c'est un aspect invasif, donc on va peut-être endommager le spécimen en réalisant ce moulage. Mais aujourd'hui, à l'ère numérique, on a une autre possibilité qui est de scanner le spécimen fossile original pour essayer de reconstituer un cerveau complètement virtuellement, donc en 3D. Donc on a l'exemple ici, vous avez le moulage d'un crâne qui est le crâne de Littlefoot, un spécimen qui a été retrouvé en Afrique du Sud et qui est daté à 3,7 millions d'années.
C'est un australopithèque, c'est ça ?
Qui est un australopithèque, donc de la famille de Lucy par exemple. Et ce spécimen, notamment son crâne, est extrêmement complet. Et nous, on voulait voir effectivement l'intérieur de son crâne et extraire l'endocrâne. Donc ce qu'on a pu faire, c'est de le transporter d'Afrique du Sud jusqu'en Angleterre pour le scanner au synchrotron. Parce que le synchrotron, c'est une nouvelle technologie qui est extrêmement performante pour réaliser des scans et voir l'intérieur des objets sans les détruire. Donc la technologie, elle repose sur du rayon X, donc c'est le même procédé que sur de l'imagerie médicale ou industrielle. Mais ici, on est à un niveau de résolution qui est très élevé, ce qui va nous permettre de voir des structures très très fines, notamment les empreintes cérébrales. Donc une fois que ce spécimen il est scanné, on obtient des images, donc il faut imaginer des tranches virtuelles du spécimen. Donc comme là, on peut voir à l'écran, vous avez ici une pile d'images, donc on peut naviguer dans le spécimen.
Là, ce qui se passe à l'écran, c'est notamment que ça s'élargit ou ça se rétrécit.
Donc là, effectivement, on a une pile d'images. Là, on part de l'arrière du crâne.
D'accord, on part de l'arrière.
On va pouvoir se déplacer. Donc là, on est à l'arrière et on se déplace jusqu'à l'avant. Donc c'est-à-dire les orbites, la rangée dentaire.
Je vous avoue que je suis très étonné par les formes que ça prend parce qu'on ne reconnaît pas du tout le crâne. C'est dû à quoi ?
Alors, le crâne, il est complet, mais il est aussi endommagé. Donc, il y a des processus, qu'on appelle nous les processus taphonomiques, qui font qu'on a énormément de fractures, notamment internes, et puis un peu de déformation. Mais grâce à ces méthodes d'imagerie, on va être capable, nous, d'extraire virtuellement tous les morceaux de crâne que vous pouvez voir ici et les séparer de ce qu'on peut voir ici en couleur un peu plus, brillante, donc ces pixels un peu plus blancs qui correspondent aux sédiments. Donc on va devoir séparer virtuellement tous ces tissus, tous ces matériaux, pour pouvoir ensuite extraire virtuellement l'endocrâne qu'on peut voir ici à l'écran. Donc là, ça paraît très rapide, on passe d'un écran à un autre, mais c'est derrière des heures, bien sûr, de traitement pour nous, pour essayer d'exploiter ces images qui sont à très haute résolution.
Ce moulage d'endocrâne gris là qu'on a sous les yeux, au niveau de la forme par exemple, j'imagine qu'elle est assez caractéristique hein, des formes d'endocrâne d'Australopithèque. C'est quoi les principales différences ?
Alors si on observe un endocrâne d'Australopithecus et qu'on va le comparer à un cerveau d'humain, à un cerveau de chimpanzé, on voit déjà que la forme elle est plus aplatie et allongée chez Australopithecus par rapport à un humain actuel. Donc ça rappelle un peu plus ce qu'on observe chez les chimpanzés. Et puis si on va observer plus finement son organisation, donc ses fameuses empreintes, on va voir que sur l'aspect frontal, on a une organisation qui est encore très éloignée de ce qu'on peut observer chez les humains actuels, notamment avec ce sillon unique au niveau de l'aire de Broca, qu'on retrouve que chez les autres primates, donc non humains actuels, pas chez nous.
Ce sillon unique sur l'aire de Broca, ça a quoi comme conséquence ?
Alors sur cette aire de Broca, c'est vrai qu'on oppose nous souvent la présence donc, de ce sillon unique qu'on retrouve aussi chez les chimpanzés actuels à la forme plutôt en fourche. Donc il faut imaginer deux sillons qui se rejoignent chez les humains actuels. L'aire de Broca, comme elle est structurée chez les humains actuels, on peut la relier à la capacité du langage articulé. Mais on ne peut pas forcément faire ce raccourci avec les fossiles. Ce n'est pas parce qu'on a une structure qui ressemble à ce qu'on a chez les humains actuels, chez certains fossiles, qui pouvaient forcément parler comme nous, on le fait aujourd'hui. Et surtout, on commence maintenant à peut-être envisager l'hypothèse qu'on a des structures qui apparaissent à certains moments de notre histoire dans notre cerveau, mais que ces structures, elles n'ont pas forcément un intérêt fonctionnel. Elles vont juste apparaître parce que c'est de la variation. Et à certains moments donnés, peut-être que nous, on parle de cooptation, c'est-à-dire que ces structures qui sont là, vont être utilisées pour une nouvelle fonction. Mais ce n'est pas parce qu'il y avait cette fonction qu'elles sont apparues. C'est probablement plus complexe que ça. Et on sait qu'il y a certaines structures dans le cerveau qui se forment parce qu'il y a d'autres structures ailleurs dans le cerveau qui, elles, vont se développer. Donc des fois, il y a des conséquences mécaniques et pas forcément une explication fonctionnelle, donc parce qu'il y a besoin du langage à un moment donné, par exemple.
Parce que sur, même sur les spécimens les plus anciens d'Australopithèque qu'on peut avoir, on a déjà des parties qui correspondent au cerveau moderne qui sont déjà là alors qu'on ne pensait pas.
On pensait avant qu'on avait un schéma qui était assez linéaire et voire même parfois subitement, voilà, on a l'apparition d'un cerveau humain moderne. Très bien. En général, on associait ça avec l'émergence du genre homo, donc le genre humain. Et ce que j'ai pu voir, moi, à mon échelle, en termes de recherche et de résultats, c'est qu'on a nuancé un peu cette conclusion, cette hypothèse, en mettant en évidence que ce processus, ce scénario, il est beaucoup plus complexe. On a des changements qui interviennent sur des aires spécifiques très tôt dans notre évolution et d'autres beaucoup plus tardivement. Mais en tout cas, dans mes travaux, je me suis plutôt concentrée sur l'organisation, donc ces sillons, où est-ce qu'ils se situent, comment ils varient. Mais j'ai des collègues qui ont aussi étudié le développement et la croissance du cerveau chez Australopithecus et on commence à s'apercevoir qu'il y a déjà des signes de, on va dire, des développements plutôt modernes, c'est-à-dire une longue croissance du cerveau, déjà amorcé chez ces groupes-là, qui ne sont pas humains, parce que ils n'appartiennent pas au genre homo. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, et ce qui, moi, m'amène à me demander, mais qu'est-ce qui se passait avant Australopithecus ? Parce qu'on a aussi d'autres groupes fossiles qui ont vécu entre donc, les premiers ancêtres, il y a 7 millions d'années, et les Australopithecus, il y a 3 millions d'années. Et ça, on le saura bien, en développant aussi des nouvelles technologies, parce que sur ces périodes-là, on a très peu d'infos, quelques fragments de crâne. Donc l'avenir va être certainement dans la discipline d'essayer de développer des méthodes pour exploiter même les données fragmentaires. Et donc ça va nous permettre d'avoir aussi une idée de mais qu'est-ce qui s'est passé avant Australopithecus, parce que finalement, nos origines, elles vont jusqu'à 7 millions d'années.
Merci Loïc Dutoit. Alors dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver notre collection de reportages La Science au Labo sur l'appli Radio France. C'est aussi en podcast sur franceculture.fr. Jean-Jacques Hublin, une réaction à ce qu'on vient d'écouter.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'abord, je pense que Amélie souligne quelque chose qui est important, enfin plusieurs choses importantes. Bon, d'abord, qu'il s'agisse du cerveau, qu'il s'agisse du développement, qu'il s'agisse de tas de sortes de tas de fonctions, de caractères, je pense que bon, on s'est détaché un peu de cette idée qu'il y a voilà un modèle grand singe puis un modèle humain. Quoi. En gros, c'était l'idée que les gens ont eue très très longtemps. Maintenant, on sait que voilà, au cours des derniers 7 millions d'années, il y a eu, je sais pas, 20-25 espèces différentes d'hominines. C'est pas une autoroute, hein, c'est un arbre compliqué avec des branches qui se multiplient. Et donc, chacune de ces branches a eu sa propre solution. Hein, et donc, on peut pas juste les mettre bout à bout pour expliquer l'évolution. Puis la deuxième chose, je crois, et ça rejoint un peu ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est que bon, on sait dans le cerveau humain actuel qu'il y a certaines zones, par exemple, qui sont liées à la production du langage. Bon, on a déjà parlé tout à l'heure de l'aire de Broca, il y a une autre aire qu'on appelle l'aire de Wernicke. On sait que quand ces zones-là sont endommagées, les gens ne peuvent plus parler normalement ou comprendre le langage, etc. Maintenant, la question, c'est comment on va interpréter le développement de ces zones sur des endocastes d'hominines très anciens. Le problème, c'est que, en fait, ces zones-là, qui sont liées au langage chez l'homme actuel, elles sortent pas de nulle part. Elles ont existé, elles existent même chez les grands singes, d'une certaine façon, sous une forme différente. Et elles ont des fonctions. Et donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que dans l'évolution du cerveau, il y a aussi une réallocation de certaines zones, de certaines structures, à de nouvelles fonctions. Et donc, c'est ça la grande difficulté. C'est-à-dire, il ne s'agit pas juste de reconnaître des aires corticales et puis de dire, elles sont plus grandes, elles sont plus petites, mais d'arriver à interpréter ça en termes de comportement, par exemple.
En tout cas, sur cette fameuse aire de Broca et sur toutes ces questions concernant l'émergence du langage chez notre espèce, je vous invite à écouter, à podcaster encore une fois notre épisode Origine du langage, parole de primate. On vient de vous poster le lien sur notre fil Blue Sky. Antoine Balzo, je voulais également votre réaction par rapport à l'écoute de ce reportage.
Ça aborde plein de sujets, en effet complexes, ces histoires d'évolution et de structuration de l'évolution. En effet, il faut essayer de prendre de la distance et ne pas simplifier l'histoire de l'évolution. On a d'un côté les chimpanzés qui sont tout primitifs et les humains d'aujourd'hui qui sont des résultats optimaux et vraiment perfectionnés. C'est buissonnant, c'est complexe et il y a plein de résultats différents et le nôtre en est un parmi d'autres, donc il faut continuer à étudier, et c'est en particulier important pour les espèces fossiles, parce qu'on sait que la diversité cérébrale chez l'humain actuel est très grande. Alors pendant longtemps, elle a été laissée de côté en quelque sorte, simplement parce que analyser la diversité anatomique du cerveau, ça implique des gros moyens de calcul. Prendre des milliers de cerveaux et en faire un moyen, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans, parce que c'était ce qu'on pouvait faire technologiquement. Maintenant, on commence à s'intéresser réellement à la diversité du cerveau, et il y a encore énormément de travail. On ne connaît pas le détail des différences de forme en fonction des populations, des régions, et même entre les hommes et les femmes. On connaît des grandes lignes, mais le détail, on ne le connaît pas très très bien. Donc il y a une vraie recherche à faire pour ça. D'où l'importance aussi de multiplier nos travaux sur les fossiles pour avoir plus de spécimens, parce que justement, en étudiant un seul individu d'une seule espèce et en voyant quelques traits, on aura toujours le doute sur la signification des impressions. Chez les humains, il y a une telle diversité qu'on peut avoir des empreintes très différentes dans une même zone. Donc c'est important d'avoir plusieurs spécimens pour être capable de conclure quelque chose qui tienne un peu d'un point de vue logique pour les spécimens fossiles. Et l'imagerie est un grand apport pour ça, parce que autant avant il fallait se déplacer, voir des moulages, les toucher, et ça prenait du temps et c'était compliqué. Là maintenant on a des modèles virtuels qu'on peut exploiter au même moment sur notre ordinateur, prendre le temps de faire les analyses, les répéter. Ça augmente quand même la qualité de nos travaux, c'est un peu plus précis. Et on a plus de spécimens qu'auparavant, en particulier des crânes comme Littlefoot, très déformés, très abîmés, remplis de sédiments, pour lesquels des gens vont travailler pendant des années pour arriver à reconstituer un bel endocrâne qui va apporter un nouvel élément à connaissance du cerveau des hommes préhistoriques.
Et ça, comme vous dites, reconstituer comme ça en 3D virtuel des volumes de cerveau, c'est rendu possible également par des méthodes d'imagerie de plus en plus performantes, comme la tomographie. Que vous décrivez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Oui, c'est la même grande lignée. On utilise le scanner depuis 50 ans. La microtomographie est arrivée. Le synchrotron, comme en parlait Amélie Baudet, est une image encore plus performante. Et ce qui permet maintenant d'avoir des données très résolues pour une grande partie des spécimens fossiles. On arrive à des résolutions qui sont des centaines de fois supérieures à celles des scanners médicaux. Donc on voit tous les détails à très bonne résolution. Maintenant, il reste à aller comprendre tous ces détails anatomiques.
Jean-Jacques Hublin, vous souhaitiez réagir?
Oui, sur la variation qui est assez grande, finalement, du cerveau actuel, hein, d'un individu à l'autre. Donc, il y a des études, quand même, qui se font. Je pense en particulier à une à laquelle j'ai participé d'assez loin, qui consiste à prendre des images 3D de centaines, là en l'occurrence c'était des milliers de cerveaux d'hommes actuels, pour des individus, chez des individus pour lesquels on a le génome conservé. Et donc dans cette étude, ce qui avait été fait, ça a été de voir quel était le niveau de présence de génome néandertalien dans le génome de cette très très grande série, et de voir si ça avait un lien avec le caractère plus ou moins globulaire, ou au contraire un peu plus allongé, un peu plus bas, abaissé du cerveau. Et bon, en tout cas pour deux gènes, cette corrélation, elle a pu être mise en évidence. Hein. En particulier un gène qui est impliqué dans ce qu'on appelle la myélination, c'est-à-dire l'enrobage des fibres nerveuses par des lipides, par de la graisse. Et puis, là, dans le cervelet, on revient au cervelet, et puis une mutation qu'on trouve sur un gène et qui, dans le cas présent, résulte d'une introgression de l'ADN néandertalien. Donc ça, c'est évidemment très ambitieux, c'est très compliqué à faire. Ça pose des problèmes même éthiques. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, c'est-à-dire de croiser la génétique avec d'autres sources d'informations.
Par rapport, on évoquait tout à l'heure les débats, les choses à détricoter justement dans cette histoire de l'évolution du cerveau. Je pense à votre ouvrage, Antoine Balzo, Dans la tête de nos ancêtres, où vous abordez ces questions-là dans votre livre, et vous abordez cette question qui est celle de l'asymétrie du cerveau. Qui a longtemps justement été considéré comme une distinction, le propre de l'être humain, comme sa capacité d'intelligence, elle serait là, dans cette asymétrie. On peut peut-être revenir sur ça.
Oui, c'est un sujet en soi et de travail pour encore très longtemps. Globalement, le cerveau humain est asymétrique et son lien avec notre corps est aussi asymétrique, puisqu'une partie du cerveau fait fonctionner l'autre partie du corps. Mais c'est aussi extrêmement complexe, et pas encore bien documenté d'un point de vue neurologique dans le lien anatomique. Parce que les travaux jusque-là ont été un peu discontinus. On sait globalement comment le cerveau est asymétrique, avec un lobe frontal droit en avant chez 90% des gens, le lobe occipital gauche en arrière, et c'est lié au fait d'être droitier. Donc il y a une corrélation. Par contre, il n'y a pas encore de démonstration de lien de causalité pour ces aspects-là. Et évidemment, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'attaquer comme ça à des choses qu'on peut soit quantifier et puis éventuellement creuser. Pour les asymétries, ces asymétries générales du cerveau, on a pu l'exploiter sur des endocrânes pour essayer de comparer entre les humains et les grands singes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait le même type d'asymétrie chez les grands singes, ce qui était inattendu. Mais c'est vrai que c'est plus petit, plus restreint. Néanmoins, le schéma d'asymétrie à l'échelle d'une population est semblable. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est hérité depuis très très loin. Et l'étape d'après, ça va être, suite au projet qu'on vient de faire là, où on s'est intéressé vraiment à l'anatomie cérébrale, d'essayer d'explorer les comportements, puisque tous nos volontaires qui ont eu la gentillesse de nous laisser leurs images de cerveau ont aussi participé à des analyses et des expérimentations manuelles et très détaillées, plein de choses différentes, qui vont nous permettre d'essayer de voir si on observe des relations entre la dextérité, la force, la rapidité, la précision d'une main, des deux mains, et les asymétries cérébrales.
Cette histoire d'asymétrie cérébrale, c'est assez super. Ça veut dire que les humains fossiles et nos plus proches cousins partagent ce cerveau asymétrique, et donc que notre cerveau n'est pas aussi unique que nous l'avons longtemps cru. On est arrivé à la toute fin de cette discussion. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais j'invite nos auditrices et nos auditeurs à prolonger l'écoute en se plongeant dans vos ouvrages, dans La tête de nos ancêtres, Antoine Balzo, qui vient de paraître aux éditions Bellin, et dans votre ouvrage, Jacques Hublin, La tyrannie du cerveau, un nouveau récit de l'évolution humaine paru aux éditions Robert Laffont en 2024. Et pour retrouver tous les événements de la semaine du cerveau qui ont lieu partout en France, on vient de vous poster le lien de la programmation de cette 27e édition. Et tout de suite, on poursuit avec de la neurologie, c'est la chronique avec science.
Comment choisit-on entre rester là où on gagne ou aller explorer l'inconnu ? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les méandres de notre cervelle. Je vais vous parler d'une nouvelle étude parue dans Nature qui affirme avoir découvert les mécanismes neuronaux qui permettent aux animaux de choisir entre rester à un endroit connu ou aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. À travers tout le règne animal, on connaît trois types de comportements : l'exploration, l'exploitation et le désengagement. C'est assez simple à comprendre. En fait, face à son environnement, un animal peut rechercher les endroits potentiellement riches en ressources, qu'elles soient d'ordre alimentaire ou sexuel par exemple. La seconde option, c'est de persévérer dans l'exploitation d'un endroit connu où il sait qu'il trouvera une récompense satisfaisante. Et enfin, il peut se désengager et plutôt manifester des comportements d'observation ou de toilettage. On pourrait se dire que c'est une erreur d'aller explorer alors même qu'on connaît un endroit riche. Mais au vu du caractère fluctuant de la nature, cette mobilité est plutôt un atout évolutif. Mais que se passe-t-il dans le cerveau au moment d'effectuer ce choix ? Thomas Borot est directeur de recherche CNRS, il dirige l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux.
Ce qu'on sait de ce qui se passe dans le cerveau, et qui a été très étudié à la fois chez les rongeurs et les primates, c'est que ces types de comportements mettent en route des circuits qui intéressent à la fois le cortex, donc les structures qui sont à la surface du cerveau, et des noyaux sous-corticaux. Donc on sait qu'il y a un dialogue entre ces deux structures, et on sait aussi que ces structures, elles sont à la fois organisées d'une certaine façon en opposition entre cortex et structures sous-corticales, et aussi entre des territoires qui sont situés dans la partie dorsale du cerveau et des territoires qui sont situés dans la partie ventrale du cerveau. Les structures dont je vous parle sont interconnectées, et il y a des hubs, donc des noyaux, qui ont des positions clés parce qu'ils reçoivent des afférences, ils projettent des efférences dans toutes ces structures, donc ils peuvent servir de nœuds de communication. C'était un peu leur hypothèse de départ. Et là, ils se sont intéressés à une structure qui s'appelle le noyau médian du raphié, qui est vraiment au niveau de ce qu'on appelle le tronc cérébral, donc c'est vraiment profond dans le cerveau. Et il a été identifié dans ce cerveau trois populations de neurones différentes qu'on différencie en fonction de leurs neurotransmetteurs, c'est-à-dire des substances qui sont libérées pour transmettre l'information entre les neurones.
Et ils ont donc cherché à comprendre le rôle de ces trois populations de neurones du noyau raphé médian. Et pour ça, ils ont travaillé sur l'un des plus grands modèles de la biologie expérimentale, les souris. Leur expérience principale consistait à positionner des souris dans un environnement auquel elles étaient habituées, mais en y ajoutant des éléments inconnus. Et ils observaient ensuite le comportement des animaux. S'ils s'en tenaient aux éléments familiers, on peut dire qu'ils faisaient preuve de persévérance. S'ils allaient vers les objets inconnus, alors on peut qualifier ça d'exploration. Et puis évidemment, si les souris restaient dans leur coin, il s'agissait de désengagement. Pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau, les scientifiques ont utilisé l'optogénétique. C'est un procédé de plus en plus utilisé en neurosciences par lequel on modifie génétiquement des souris pour rendre leurs cellules sensibles à la lumière. Ensuite, en insérant des fibres optiques dans le cerveau, on peut activer ou désactiver des populations de cellules très ciblées, rien qu'avec un signal lumineux. On peut comme ça définir le rôle de certains types de cellules sur les comportements.
Grâce à ces manipulations, ils ont pu montrer que les neurones GABAergiques favorisent le comportement d'exploitation, les neurones glutamatergiques favorisent le comportement exploratoire, et les neurones sérotoninergiques sont essentiel pour que l'animal s'engage dans une tâche. Donc, quand ces neurones sont inhibés, ne fonctionnent pas, l'animal a tendance à se désengager et à rester inactif. Et donc, il y a un équilibre entre l'activation de ces trois populations de neurones qui va faire basculer, en fait, le comportement de l'animal dans un comportement ou dans l'autre. Alors, moi, ce que j'aime dans ce papier, bon, au-delà de la technique qui est très belle et très élégante, ce que j'aime, c'est qu'il s'oppose à une vision classique. Il y a une espèce de doxa pour lequel les comportements flexibles sont gérés par le cortex, et les comportements automatiques sont gérés, donc là ce serait la persévérance, sont gérés par la structure sous-corticale. Donc ils éclatent un peu cette vision archaïque, moi, que personnellement je n'aime pas, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal de la part de cet article.
En revanche, le papier n'est pas parfait et on pourrait lui reprocher son approche très modulaire, c'est-à-dire qu'elle présente le noyau raphé médian, là où sont nos trois populations de cellules, comme un commutateur, un outil qui permet de basculer d'un comportement à un autre sous l'impulsion d'un signal bien défini. Cette vision un petit peu réductrice et de plus en plus contestée par une approche plus systémique, donc qui pense le cerveau comme un réseau soumis à de nombreuses influences. Une approche qui embrasse l'incommensurable complexité de cet organe et qui pourrait être facilitée à l'avenir par un usage efficace de l'intelligence artificielle.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Lou Angers. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.